Chapitre 10. Comment Dieu dirige son peuple. Les deux trompettes d'argent. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Fais-toi deux trompettes, tu les feras d'argent battu, et elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Et lorsqu'on en sonnera, toute l'assemblée s'assemblera vers toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne d'une seule, alors les princes, les chefs des milliers d'Israël, s'assembleront vers toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, les camps qui sont campés à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat une seconde fois, les camps qui sont campés au midi partiront. Et on sonnera avec éclat pour leur départ. Et quand on réunira la congrégation, vous sonnerez, mais non pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, et elles seront pour vous un statut perpétuel en vos générations. Et quand dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, et dans vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité, et elles seront un mémorial pour vous devant votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Versets 1 à 10. L'ordonnance des trompettes d'argent suit immédiatement l'instruction sur le mouvement de la nuée. Le son de la trompette était la communication de la pensée de Dieu sous une forme distincte et assez simple pour être comprise de tous. Dieu avait fait en sorte que chacun, dans cette immense assemblée, même s'il était éloigné, puisse l'entendre. Chaque trompette devait être faite d'une seule pièce, et elle servait à divers buts. La source du témoignage était une. L'objet et le résultat pratique en étaient variés. Chaque mouvement dans le camp devait être la conséquence du son de la trompette. L'assemblée devait-elle être réunie pour adorer et se réjouir en un jour de fête? Cela se faisait au moyen d'un certain son de la trompette. Les tribus devaient-elles être rassemblées en ordre de bataille? C'était encore au son de la trompette. Tout était réglé par la trompette d'argent. Un mouvement quelconque, soit religieux, soit guerrier, qui n'était pas le résultat d'un son connu, était donc le fruit d'une volonté insoumise. Cette armée de pèlerins dans le désert était aussi dépendante du son de la trompette que du mouvement de la nuée. Il incombait aux fils d'Aaron, aux sacrificateurs, de sonner des trompettes. La pensée de Dieu ne pouvait être connue et communiquée que par ceux qui vivaient dans la proximité et dans la communion de Dieu. C'était le privilège de la famille du sacrificateur de se grouper autour du sanctuaire de Dieu pour y observer le premier mouvement de la nuée et de le faire connaître jusqu'aux extrémités du camp. Il devait produire un certain son de la trompette, et chaque membre de la congrégation devait y obéir. Cela aurait été de la rébellion d'essayer de marcher sans le mot d'ordre, ou de refuser de marcher quand ce mot d'ordre était connu. Tous devaient attendre le témoignage de Dieu et marcher à sa lumière dès qu'il était donné. Marcher sans le témoignage, ce serait marcher dans les ténèbres. Refuser de marcher lorsque le témoignage a été donné, ce serait rester dans les ténèbres. Dépendance et soumission. Tout cela est profondément pratique et n'offre aucune difficulté quant à sa portée et à son application pour nous. Il y a là une leçon à laquelle nous devrions accorder la plus grande attention. Nous voyons que le peuple de Dieu doit dépendre absolument du témoignage divin et s'y soumettre entièrement dans tous ses mouvements. La congrégation dans le désert n'osait pas s'assembler pour une fête ou dans un but religieux sans avoir entendu le son de la trompette. Et les hommes de guerre ne pouvaient pas se mettre en route avant d'être appelés par le signal d'alarme à marcher contre l'ennemi. Ils adoraient et combattaient, ils voyageaient et s'arrêtaient en obéissance à l'appel de la trompette. Il ne s'agissait nullement de leur goût ou de leur répugnance, de leurs pensées, de leurs opinions ou de leurs jugements. C'était simplement et exclusivement une question d'obéissance. Chacun de leurs mouvements dépendait du témoignage de Dieu donné du sanctuaire par les sacrificateurs. Le monde religieux est caractérisé par l'insoumission à l'autorité divine, et même par la résistance positive à la vérité, alors qu'elle demande une obéissance entière et le renoncement à soi-même. Tout va bien tant que l'on parle de l'amour de Dieu et du pardon par la croix de Christ. On écoutera cela, et l'on en jouira. Mais dès qu'il est question des droits et de l'autorité de Christ, toutes sortes de raisonnements et de questions sont soulevées. Des nuages s'amassent et obscurcissent l'entendement. Le tranchant de la vérité est émoussé ou détourné de mille manières. En fait, on n'attend pas le son de la trompette. Et quand elle retentit, on ne répond pas à son appel. On marche quand on devrait s'arrêter, et on s'arrête quand on devrait marcher. Il est impossible que nous puissions progresser dans la vie divine si nous ne nous abandonnons pas sans réserve à la parole du Seigneur. Nous pouvons être sauvés par la miséricorde divine, par les vertus expiatoires du sang du Sauveur, mais nous contenterons-nous d'être sauvés par Christ sans chercher en quelque mesure à marcher avec lui et à vivre pour lui? Accepterons-nous le salut par l'œuvre qu'il a accomplie sans désirer une plus profonde intimité de communion avec lui et une plus complète soumission à son autorité? Que serait-il arrivé à Israël dans le désert s'il avait refusé d'être attentif au son de la trompette? Nous pouvons bien l'imaginer. Ou s'il s'était permis de s'assembler pour un motif de réjouissance ou dans un but religieux sans l'appel de Dieu? Ou encore s'ils avaient pris sur eux-mêmes de sortir pour la guerre avant que la trompette ait sonné l'alarme? Dieu s'occupe des détails de nos vies. Les trompettes d'argent, dont sonnaient les sacrificateurs, déterminaient et ordonnaient chaque mouvement d'Israël autrefois. De même, le témoignage de Dieu devrait tout déterminer et tout ordonner dans nos vies aujourd'hui. Ce témoignage est connu dans la communion avec lui. Un chrétien n'a pas le droit de marcher ou d'agir en dehors du témoignage divin. Il doit attendre la parole du Seigneur, et jusqu'à ce qu'il la connaisse, il doit demeurer tranquille. Quand il l'a reçue, il doit avancer. Dieu communique sa pensée à son peuple aujourd'hui aussi distinctement qu'il le faisait autrefois. Sans doute, ce n'est pas maintenant par le son d'une trompette ou par le mouvement d'une nuée, mais par sa parole et par son esprit, agissant sur nos cœurs et sur nos consciences. Soyons bien assurés que notre Dieu peut donner et donne à nos cœurs une pleine certitude quant à ce que nous devons faire et à ce que nous ne devons pas faire, quant au lieu où nous devons aller et ceux où nous ne devons pas aller. Notre Père Céleste désire nous révéler sa pensée quant à tous les détails de notre vie journalière. Recherchons-la et ayons à cœur d'être des enfants obéissants. Pourrions-nous supposer que l'Église soit moins favorisée quant aux directions divines que le camp d'Israël dans le désert? Impossible. Comment se fait-il donc qu'on trouve souvent des chrétiens dans l'embarras quant à leur marche? Cela doit venir de ce qu'on n'a pas une oreille attentive pour entendre le son de la trompette d'argent et une volonté soumise pour répondre à son appel. Bien sûr, nous ne devons pas nous attendre à entendre une voix du ciel nous enjoignant de faire ceci ou cela, ou d'aller ici ou là, ni à trouver toujours pour nous guider un texte formel de l'Écriture. Mais si notre oreille est attentive, nous entendrons toujours la trompette d'argent. Avant qu'elle n'ait sonné, ne bougeons pas. Quand elle aura sonné, ne nous arrêtons pas. Évitons-nous la peine de courir à droite et à gauche en quête de conseils de tout genre. Si nous avons l'oreille ouverte et le cœur soumis, nous serons guidés en toute certitude, jour après jour, par le Seigneur. Le camp d'Israël, prêt à partir. Nous voici maintenant arrivés au moment où le camp est appelé à partir. Tout avait été parfaitement réglé d'après le commandement de l'Éternel. Chaque individu suivant sa famille, et chaque tribu suivant sa bannière, tous étaient à la place que Dieu leur avait assignée. Les Lévites étaient à leur poste, chacun avec son travail particulier. Le camp avait été purifié de ses souillures. Le dévouement des princes s'était manifesté. Le chandelier d'or et ses 7 lampes donnaient leur pure et précieuse lumière. La colonne de feu et la nuée étaient là, de même que le double témoignage des trompettes d'argent. Rien ne manquait au peuple pèlerin. Un œil vigilant, une main puissante, un cœur plein d'amour avaient prévu toutes les éventualités possibles et pourvu à tout. Nous ne pouvions attendre moins. Si Dieu entreprend de pourvoir aux besoins d'un individu ou d'un peuple, il le fait d'une manière parfaite. Dieu ne peut oublier quoi que ce soit. Il connaît tout et peut tout. Rien ne saurait échapper à son œil vigilant. Rien n'est impossible à sa main puissante. Tous ceux qui peuvent dire avec vérité « L'Éternel est mon berger » peuvent ajouter sans hésitation « Je ne manquerai de rien » Psaume 23, verset 1. L'arche devant le peuple. Ainsi donc, le camp est prêt à partir. Mais, chose étrange, voici une déviation de l'ordre prescrit au commencement du livre. L'arche de l'Alliance, au lieu d'être au milieu du camp, s'y trouve à la tête même. En d'autres termes, l'Éternel, au lieu de rester au centre de l'assemblée pour y être servi, condescend dans sa grâce merveilleuse à remplir pour son peuple le rôle d'avant-coureur. Mais qu'est-ce qui amène ce déploiement de grâce? Et Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a dit du bien à l'égard d'Israël. » Et il lui dit, « Je n'irai pas, mais je m'en irai dans mon pays et vers ma parenté. » Et Moïse dit, « Je te prie, ne nous laisse pas, parce que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert, et tu nous serviras, Dieu. » Versets 29 à 31. Si nous ne connaissions pas la tendance de nos propres cœurs à s'appuyer sur la créature plutôt que sur le Dieu vivant, nous pourrions bien nous étonner. Moïse avait-il besoin des yeux de Hobab? L'Éternel n'était-il pas suffisant? Ne connaissait-il pas le désert? Aurait-il permis que son peuple s'égare? La nuée et les trompettes d'argent ne valaient-elles pas mieux que les yeux de Hobab? Pourquoi donc Moïse cherchait-il un secours humain? Hélas, nous connaissons tous la tendance de nos cœurs à s'appuyer sur quelque chose que nos yeux peuvent voir. Nous trouvons difficile de nous appuyer sur un bras invisible. Un Hobab que nous pouvons voir nous inspire plus de confiance que le Dieu vivant que nous ne pouvons pas voir. Combien c'est humiliant! Nous avons éprouvé, dans un grand nombre de circonstances, qu'il est vain de nous appuyer sur la créature, et cependant nous persistons à nous confier en elle. D'un autre côté, nous avons éprouvé bien des fois la valeur de l'appui qu'on trouve dans la parole et dans le bras du Dieu vivant. Nous avons pu constater qu'il ne nous a jamais déçus, et cependant, nous sommes toujours prêts à nous appuyer sur un roseau qui se casse. Mais si Moïse regarde à Hobab pour être guidé, l'Éternel enseignera à son serviteur qu'il est lui-même tout à fait suffisant comme guide. Et ils partirent de la montagne de l'Éternel, le chemin de 3 jours, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel alla devant eux, le chemin de 3 jours, pour leur chercher un lieu de repos. Verset 33. Quelle précieuse grâce! Le Dieu fort, le Créateur des bouts de la terre, s'avance à travers le désert pour découvrir un lieu de campement convenable à un peuple qui était toujours prêt à murmurer et à se rebeller contre lui. Tel est notre Dieu, patient, miséricordieux, puissant, saint. Il se place toujours dans la magnificence de sa grâce, au-dessus de notre incrédulité et de nos chutes. Ici, il montre à Moïse et à Israël qu'il est, comme guide, de beaucoup préférable à 10 000 connaisseurs du désert. Il ne nous est pas dit en cet endroit si Hobab s'en alla ou non. Il refusa certainement le premier appel et peut-être aussi un second. Mais il nous est dit que l'Éternel alla avec eux. La nuée de l'Éternel était sur eux de jour quand ils partaient de leur campement. Verset 34. Abri précieux dans le désert, ressource inépuisable, il marche devant son peuple pour lui chercher un lieu de repos, et lorsqu'il a trouvé un endroit qui répond à leurs besoins, il fait halte avec eux, étendant sur eux son aile protectrice pour les garantir de tout ennemi. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduisit çà et là, il prit soin de lui et le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid et plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit. Et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Deutéronome 32, versets 10 à 12. Il étendit une nuée pour couverture et un feu pour éclairer de nuit. Psaume 105, verset 39. Ainsi, il avait été pourvu à tout, selon la sagesse, la puissance et la bonté de Dieu. Rien ne manquait, ni ne pouvait manquer, vu que Dieu lui-même était là. Et il arrivait qu'au départ de l'arche, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi. » Et quand elle se reposait, il disait « Reviens, Éternel, aux 10 000 milliers d'Israël. » Versets 35 à 36.